Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Seyssac par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et par la ville d'Anglette, 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge à Anglette. Société, religion et charité au 19e siècle. Voici le mot d'ouverture du colloque par le maire d'Anglette, Claude Olive.
Ma révérende mère, Madame Ponté, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs, chers amis, alors que vous occupiez au sein de la congrégation les fonctions d'archiviste, vous aviez émis l'idée d'une conférence consacrée à l'abbé Seyssac au moment où l'action semblait s'accélérer. Par hasard, cette idée a été communiquée à celui qui n'était pas encore mon adjoint à la culture, qui a plutôt pensé, lui, qu'à l'œuvre de Louis-Édouard Seyssac. Je peux vous dire aujourd'hui, et vous révéler, que ce projet faisait partie des propositions qu'il m'a soumises à l'équipe municipale, et que dès notre élection, nous avons décidé de le concrétiser. Et voilà comment nous nous retrouvons aujourd'hui au refuge pour l'ouverture, religion et charité du XIXe siècle, qui va rassembler pendant 3 jours dans cette salle quelques-uns des plus éminents et brillants de France et d'Espagne, à qui je souhaite du fond du cœur une très chaleureuse bienvenue et que je remercie pour leur participation. Je tiens à exprimer ma gratitude et celle de la ville d'Anglette à Madame le professeur Josette Ponté, qui a conçu, élaboré, mis en forme le programme de ce colloque, en collaboration avec le professeur Agostino. Je sais, Madame, le mal que vous êtes donné. Je connais les démarches, les appels, les lettres, les mails qui ont été nécessaires pour réunir les prestigieux intervenants de ces 3 jours. Pour organiser aussi ces déplacements, harmoniser leur communication, ajuster leur emploi du temps, donner forme et cohérence à ce colloque. Je vous remercie, Madame, très sincèrement, et je tiens à vous dire combien je suis sensible à l'énergie, au professionnalisme rare avec lequel vous avez préparé cette manifestation. J'aurai dans d'autres circonstances l'occasion de vous le redire, mais je tiens publiquement à l'ouverture officielle de ce colloque à vous dire toute ma reconnaissance et associer à ces remerciements votre époux, dont l'aide souriante vous est toujours précieuse. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Je l'ai écrit dans ma préface du programme. C'est la première fois qu'Anglette voit se rassembler un tel aréopage d'historiens éminents, de spécialistes reconnus que nous connaissons par leurs travaux, leurs écrits, leur réputation nationale, voire internationale, et qui nous font l'honneur de se déplacer jusqu'ici pour nous éclairer, nous interpeller, nous donner à apprendre et à réfléchir sur un thème d'une grande force historique, mais dont l'actualité demeure vivante au travers du temps. Naturellement, nous sommes tous désolés de l'accident survenu au professeur Levillain, qui avait accepté de présider ce colloque et qui nous prive de sa présence et de ses contributions. Nous nous souhaitons tous un complet rétablissement. Je remercie le professeur Sorel d'avoir accepté de présider cette séance d'ouverture. Mesdames, Messieurs, lorsque nous avons appris en 2014 la bonne nouvelle de la béatification du père Louis-Édouard Seyssac, nous nous sommes interrogés avec mes collègues sur la part culturelle que pouvait prendre la ville d'Anglette face à cet événement, mais aussi comment elle pouvait partager la joie d'une communauté implantée ici depuis 1838 et dont l'action s'est amplifiée au fil du temps, non seulement sur notre territoire, mais aussi en France et à l'étranger. L'inauguration d'une avenue Seyssac, le matin même de la cérémonie par le cardinal Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, l'organisation de 3 récitals d'orgue durant l'été dans la chapelle où tout à l'heure Madame Dufourcet-Hakim donnera un concert, ont précédé la tenue de ce colloque qui revêt pour moi un double intérêt. Celui de replacer l'action du bienheureux dans son temps d'une part et celui d'élargir aux autres religions, à d'autres pays, la pratique de la charité. La richesse de ce programme, de ce colloque, nous ouvre de multiples perspectives de réflexion. La variété des communications dessine un panorama très large de la vie religieuse intense du XIXe siècle. La diversité des thèmes abordés et des situations traitées nous montre le lien indissoluble entre charité et spiritualité. J'ai dit au cardinal Amato, lors de l'inauguration à l'avenue Sestac, combien j'étais sensible à la vision sociale du père Sestac, à sa modernité aussi, combien j'étais attaché à l'action continue du refuge aujourd'hui, à sa capacité d'adaptation et d'accueil, combien enfin j'étais attentif à la vigueur et à la richesse de la vie spirituelle qui s'exprime dans ce lieu, soit dans l'action, soit dans la contemplation. Je constate que l'ensemble des intervenants recoupe avec bonheur ces thèmes qui me touchent, non seulement parce que ma maison familiale est voisine du couvent des Bernardines et qu'une grande part de mon enfance est associée au refuge, mais parce que la pratique de la charité, dénommée aujourd'hui solidarité, demeure au cœur de mes préoccupations de mère d'Anglette et s'enracine dans des convictions profondes et tenaces. Je n'irai pas plus loin dans mon propos, car je vous sais impatient d'entendre les communications passionnantes de nos hôtes. Je veux simplement vous redire le plaisir que j'éprouve à vous accueillir, vous souhaiter un excellent séjour en Anglette, vous remercier à nouveau de votre participation et vous saluer avec estime et respect. Je ne doute pas que les auditeurs qui suivront les séances feront avec avidité leur miel de ce qu'ils entendront. Mais au-delà, je désire que le message universel qu'a laissé Louis-Édouard Sestac en devenant serviteur des plus petits et des plus fragiles, et qui sera ici restitué dans sa plénitude historique, que ce message continue de nous toucher aujourd'hui, afin que nous demeurions des témoins et surtout des acteurs déterminés. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre le mot d'ouverture du maire d'Anglette, Claude Olive. Colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sestac par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et par la ville d'Anglette, 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge à Anglette. Société, religion et charité au XIXe siècle. L'Église et la béatification, un difficile périple. Voici l'intervention de Philippe Loupès, professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne, membre de l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux, le long chemin vers la béatification, le cas de Jeanne de Lestonac, née à Bordeaux en 1556 et décédée en 1640. Philippe Loupès.
Je voudrais d'abord remercier la municipalité d'Anglette, son maire et son équipe, et puis ma collègue et amie Josette Ponté pour cette invitation. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, c'est la Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila était pour Jeanne de Lestonac la référence, le modèle absolu, et j'y vois personnellement un signe. Eh bien, à notre époque, plusieurs béatifications et canonisations très rapides menées sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XIV ont frappé les esprits. Pour Mère Teresa, décédée en 97, le procès en béatification, lancé seulement 2 ans après son décès, grâce à une dérogation de Jean-Paul II, a abouti dès 2002. C'est le procès en béatification le plus rapide de l'histoire de l'Église. Une fulgurance identique qu'on pourrait citer dans d'autres cas qui seront dans mon texte beaucoup plus long que le résumé que je présente aujourd'hui. Mais face à ces bienheureux, à ces saints, à la trajectoire de météores, il y a ce que j'oserais appeler les « besogneux », entre guillemets, dont les vertus sont réelles et qui n'ont fait l'objet que d'une reconnaissance tardive par le Saint-Cierge. Et Jeanne de Lestonnac appartient à cette cohorte. Rappelons très brièvement qui est Jeanne de Lestonnac. Dans le cadre de la réforme catholique, Jeanne de Lestonnac, 1556-1640, appartient au cénacle étroit des grandes veuves fondatrices de congrégations religieuses de ce début du XVIIe siècle, aux côtés de Sainte Jeanne de Chantal, de Sainte Louise de Marillac. Fille du très catholique conseiller au Parlement Richard de Lestonnac et de Jeanne d'Ecquem, sœur cadette de Montaigne, une sœur cadette de Montaigne gagnée au protestantisme, eh bien, la jeune Jeanne connaît une enfance tourmentée, presque déchirée, entre deux confessions. De ce qu'on appelait la « tentation », entre guillemets, la tentation protestante, elle va garder toute sa vie comme un remords qui s'exprime dans une spiritualité de réparation. Alors, au physique, comment est-elle? Au physique, grande, solide, belle, très belle, même jusque dans un âge avancé. Et son oncle Michel de Montaigne la dépeint ainsi. Très pieuse, d'humeur joyeuse, intelligente et belle, la nature en avait fait un chef-d'œuvre, alliant une belle âme à un si beau corps et logeant une princesse en un magnifique palais. Fin de citation, on ne peut être plus élogieux. Et dans la sûreté de son jugement, Montaigne ajoutait, ce qui ne plaira pas aux féministes, il ajoutait, je cite, « qu'elle ne sentait en rien la fille ». Qu'elle ne sentait en rien la fille, c'est-à-dire qu'elle avait toutes les qualités d'un homme. Bien, elle est mariée à 17 ans au marquis de Montferrand, baron de Landiras. 4 enfants survivront, veuve jeune, elle était épouse d'un homme bien plus âgé qu'elle. En 1603, après avoir élevé ses enfants, son expérience chez les Feuillantines de Toulouse, une congrégation particulièrement rigoriste, se solde par un échec. Menant à Bordeaux la vie d'une veuve pieuse, tout à fait dans l'esprit de saint Paul, elle songe alors à la fondation d'un nouvel institut féminin, un institut enseignant absolument sur le modèle de la Compagnie de Jésus. Et il faut toute la détermination de Jeanne et l'habileté des jésuites qui la dirigent pour vaincre les réticences du très autoritaire cardinal de Sourdis, l'archevêque de Bordeaux, grand archevêque réformateur, très jaloux de son autorité. Enfin, en 1607, la bulle de fondation est obtenue pour la nouvelle congrégation dont le nom très révélateur traduit la filiation Compagnie de Notre-Dame, compagnie comme la Compagnie de Jésus. Et d'ailleurs, au début, on les appelle couramment à Bordeaux les Jésuitines, ce surnom disparaîtra par la suite. Bien, nous sommes en présence d'un profil porteur, ce que j'appellerais un profil porteur. Il ne s'agit pas pour moi de refaire le procès de canonisation de Jeanne de Lestonnac, d'entrer dans un jeu de rôle, de jouer alternativement à l'avocat de la cause puis à l'avocat du diable. Simplement, interrogeons-nous sur les vertus de Jeanne, sur le modèle de sainteté qu'elle incarne. Essayons de comprendre la lenteur, c'est ça le thème de mon exposé, la lenteur du processus de reconnaissance. Jeanne est tout à la fois une femme d'action et une mystique, sujette à des extases, à des visions. À la veille de sortir de chez les Feuillantines de Toulouse, Dieu lui révèle, je cite son premier biographe, qu'elle était destinée à être la mère d'une nombreuse prospérité de filles qui se consacreraient au Seigneur dans une nouvelle religion, religion au sens de congrégation religieuse. Et elle voit, je cite toujours, l'enfer ouvert et une infinité d'âmes sur le point d'y tomber qui réclamaient son assistance. Fin de citation. Aux yeux de la postérité, son titre de gloire majeure est d'être une grande fondatrice, d'avoir établi une congrégation enseignante qui, à sa mort, avait essaimé dans la France entière et qui, actuellement, est à l'échelle du monde. J'en reparlerai ultérieurement. Cette femme d'action n'en est pas moins une mystique qui pratique les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, pratique l'oraison mentale, ce qui la conduit souvent jusqu'à l'extase. Et ses biographes insistent par ailleurs sur sa profonde humilité qui s'exprime dans la destruction très volontaire de ses papiers quelques années avant sa mort, par son refus catégorique d'être portraituré à la fin de sa vie jusqu'au terme de son agonie. On raconte que les religieuses avaient fait venir un peintre en cachette, mais que l'agonisante avait suffisamment de force pour l'éloigner. Sa destinée de fondatrice ne lui a pas épargné ses croix qu'elle endure avec résignation et humilité. On peut parler de véritable trahison. Trahison dès la fondation de l'ordre, et même une véritable persécution qui l'a réduit à l'état de véritable souillon pour sa communauté, la communauté qu'elle avait fondée. Tant de vertus, tant de signes témoignent de l'élection d'une religieuse évoluant en quelque sorte dans un contexte providentiel, une religieuse douée à certains moments du don de prophétie qui, selon son vœu, mourut lors de la fête mariale de la purification. Alors, le premier indice qui a été retenu par les biographes, mais c'est le cas pour bien des dévots du XVIIe siècle, c'est une mort en odeur de sainteté, une mort en odeur. Au sens littéral du terme, c'est-à-dire que le corps, gardé 5 jours sans sépulture pour satisfaire à la pression populaire, exhale une odeur agréable, je cite, qui se faisait sentir au loin et parfumait tout le lieu où elle était exposée. Et ses funérailles à Bordeaux prennent l'allure d'un triomphe beaucoup plus que d'une pompe funèbre. Dès son décès commence la quête des reliques. Dans les années 1680, les religieuses de Notre-Dame l'installent dans le couvent de la rue du Ha à Bordeaux, installent le corps de Jeanne dans une sépulture assez noble, et tous les ans, le 1er mai, qui est la fête de l'ordre, eh bien, la communauté réunie, avec des ecclésiastiques désignés par l'archevêque, changeait une partie des vêtements de la fondatrice, et ceux que l'on retirait étaient divisés en parcelles et distribués aux dévots. Et dès sa mort, et dans les décennies qui suivent, les guérisons surprenantes se multiplient, qui sont aussitôt considérées comme miraculeuses, peut-être un peu hâtivement, car les enquêtes n'étaient pas toujours menées de façon très très méthodique. Pour le promoteur de justice, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement l'avocat du diable, quelle critique peut-il formuler contre à l'égard de Jeanne de Lestonac? Peu de critiques ont été mises en avant. On pourrait mettre en avant l'estime de soi que son premier biographe attribue fort astucieusement à son passé huguenot, à sa naissance et à ses premières années dans une famille à moitié huguenote. Également, un certain autoritarisme, défaut qui, nous le savons, peut se transformer en qualité pour une personne exerçant de hautes responsabilités comme Jeanne. Une sévérité peut-être excessive qu'elle exerçait d'abord à son égard, une certaine raideur qui transparaît dans ses portraits, mais je crois qu'on n'ira pas plus loin pour les portraits, car ça bloque. Voilà le plus beau portrait. Hein. Alors,
excusez-moi de vous avoir fait venir. Bon,
oui, voilà, merci. Non, merci bien. Donc, des portraits que je vais faire défiler, une femme impressionnante, absolument impressionnante, tant par sa stature que par son air de grandeur. Autre reproche qui pourrait être fait à l'égard de Jeanne de Lestonac, le fait qu'à son départ pour entrer chez les Feuillantines de Toulouse, elle a abandonné entre guillemets, sa dernière fille qui était une adolescente, qui n'était pas encore établi, comme on le dit, à l'époque. Et l'on pense à cet égard à la scène spectaculaire qui se déroula sur les berges de la Garonne lors de son embarquement en direction de Toulouse, où cette fille, en pleurs, essaie de la fléchir, arguant, je cite, en vain du peu d'amour qu'elle témoignait à ses enfants. Son fils unique galope jusqu'à Toulouse pour essayer de l'empêcher d'entrer dans le couvent et de s'occuper de sa dernière fille, échec pareillement. En fait, Honnêtement, deux des filles de Jeanne étaient déjà entrées chez les Ursulines. La plus jeune, celle dont il est question, avait un établissement programmé par le mariage avec un gentilhomme périgourdin et elle avait été confiée à son frère. Ce comportement, c'est vrai, peut choquer à notre époque, mais il n'est pas unique. Nous connaissons des scènes identiques, tragiques, au départ de Sainte Jeanne de Chantal, de Sainte Marie de l'Incarnation. Sainte Jeanne de Chantal est obligée pratiquement de marcher sur le corps de son fils pour se diriger vers le couvent qu'elle souhaite. Et je me suis interrogé dans un article au titre, j'en conviens, un peu polémique. Le titre est le suivant, « Saintes et dévotes à l'époque tridentine, épouse du Christ et mauvaise mère, point d'interrogation. » En fait, il convient de ne pas juger de façon anachronique ces fortes femmes, ces futures fondatrices, mariées non point contre leur gré, mais par convenance, une fois devenues veuves, se voient avant tout comme des épouses du Christ. Et la dimension maternelle est, sinon oubliée, du moins mise de côté. Alors, comment est lancé le processus de béatification ? Au départ, en toute logique, nous trouvons, c'est normal, les religieuses de Bordeaux. Le processus est préparé, accompagné par plusieurs biographies que l'on appelle souvent des hagiographies, car l'état d'esprit ne correspond pas à la rigueur historique qui est le nôtre au XXe siècle. Le dessin des publications est explicite, c'est engager, soutenir la béatification. Une première biographie par un Toulousain, Sainte-Marie, 4 ans à peine après la mort de Jeanne. Une deuxième ou troisième, très importante, à la fin du XVIIe siècle, qui est une commande de Poitiers. Et d'autres ouvrages du XVIIIe siècle sur lesquels je passe. En fait, les choses stagnent au XVIIIe siècle. Il y a une apathie que certaines mères de maison regrettent. Et ce n'est que par-delà la parenthèse révolutionnaire qui voit la disparition de la Compagnie Notre-Dame que le processus de béatification est réenclenché avec ce que j'appellerais un sursaut identitaire de la Compagnie Notre-Dame sous la Restauration. Le mérite en revient entièrement à la restauratrice de la Compagnie qui est la mère du Terrail, que vous pouvez voir sur l'écran. C'est la refondatrice, une femme énergique aussi, très très énergique, qui rétablit Toulouse, qui va contribuer à la restauration de Bordeaux, multiplier les fondations. Et sa première tâche, c'est de retrouver le corps de la fondatrice qui avait été enterrée clandestinement sous la Terreur. Elle veut retrouver le corps de la fondatrice, le corps de notre mère, notre richesse, dit-elle. Et à Bordeaux, elle anime les soldats, et avec les conseils de deux témoins de l'inhumation révolutionnaire, les fouilles à Bordeaux aboutissent en novembre 1822 à la restitution du corps. Office solennel à la cathédrale, inhumation dans le nouveau couvent de la rue du Palais Gallien, tout s'enchaîne. Mais cela ne suffit pas à la mère du Terrail, elle s'engage totalement dans son plan d'exaltation de la fondatrice. Que pourrions-nous faire pour celle à qui nous devons notre bonheur, notre saint état, la gloire d'être ses filles, travailler de tout notre pouvoir à la faire béatifier ? Alors elle œuvre de tous côtés comme si elle avait reçu une mission spéciale divine. La famille royale est sollicitée, en particulier la duchesse d'Angoulême, les membres du sacré collège, les évêques, les ambassadeurs, les ministres. Celui qui réagit le plus mollement, c'est Monseigneur Daviau, l'archevêque de Bordeaux, qui enfin, quand même, établit en 26, instruit le procès d'opinion générale et de sainteté, celui de non-culte. Donc, le mouvement est lancé. Mais notre mère dit que il faut tant d'argent à Rome pour les procès, que nous serons peut-être obligés d'emprunter, mais Dieu y pourvoira. Et à l'initiative de l'archevêque de Toulouse, elle part par deux fois à Rome, alors qu'elle est à un âge avancé, elle est septuagénaire, ce qui est un grand âge en ce début du XIXe siècle. Elle va à Rome où elle évolue dans un cadre jésuite, elle réussit à être présentée au Saint-Père qui l'encourage. Mais les difficultés s'accumulent. Le postulateur de la cause, le père Orioli, qui est en quelque sorte le pivot de l'entreprise, demeure invisible. cloué qu'il est chez lui par une attaque de goutte. Et la mère du Téhiraï est persuadée, je cite, c'est elle qui le dit, que sa goutte est une nouvelle entrave suscitée par le démon qui, depuis 2 siècles, travaille si efficacement à empêcher la béatification de notre mère fondatrice. Enfin, le père Orioli apparaît. La mère du Téhiraï l'avait appelé l'invisible, l'introuvable. Donc l'introuvable vient, il examine auprès de la mère les pièces du dossier, il les juge bonnes sur le fond, nulles pour la forme, et il faut tout recommencer, parce qu'il n'y avait pas eu d'ordre du Saint-Siège. Donc, les choses repartent, et finalement, la mère du Téhiraï va mourir en 1834, quelques mois avant l'introduction véritable de la cause super-introductionnée causée, le 19 septembre 1824. Bon, la marche est engagée, et cette marche progresse sous le Second Empire avec 2 miracles. Un miracle en 1867, à Toulouse, dans une maison importante, maison de religieuse de Toulouse. Deuxième miracle, miracle en Catalogne, à Manresa, en 1886, une capucine qui est guérie d'une tumeur cancéreuse après avoir prié Jeanne de Lestonac. Enfin, en 91, est promulguée la position super validate processus, le décret sur les vertus d'héroïcité de Jeanne de Lestonac. Et puis la dernière étape est relativement rapide. Pour la vénérable Jeanne, étape courte, et la tapisserie qu'avait entreprise par la mère du Téhiraï pour servir aux futures fêtes de béatification, elle avait fait planter dans son exaltation des mûriers dans tous les couvents pour avoir des fils de soie. Elle avait fait travailler toutes les religieuses à une tapisserie. Donc déjà ancienne, effectivement, cette tapisserie, œuvre collective de tous les couvents, orne le sanctuaire de Toulouse lors des fêtes de béatification en novembre 1900. C'est Léon XIII qui procède à la béatification de Jeanne de Lestonac. Et cette béatification va permettre au foyer de Bordeaux, la rue du Palais Gallien, de construire et de décorer, malheureusement mon cliché n'est pas bon, une très belle chapelle de style art déco dans les années 20-25 où se trouve le tombeau de Jeanne de Lestonac. Mais le cliché est affreux. Il y a des mosaïques de très très grande qualité. La dernière étape, c'est la canonisation qui va avoir lieu en 49. Pour la dernière étape de la canonisation, il fallait, vous le savez, un miracle. Mais un miracle chronologiquement postérieur à la béatification. On ne pouvait avoir recours à un miracle qui se serait développé, qui aurait eu lieu au XVIIe siècle. Il y en avait eu de plus ou moins, certains un peu discuté, il y en avait eu, mais il n'avait pas été reconnu. Alors, ce miracle déterminant eut lieu à Tournemine, qui est un village de quelques 800 habitants dans l'Aveyron, le 1er mai 41. En 2006, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un des derniers témoin vivant, peut-être la dernière, qui était une religieuse au couvent de Notre-Dame de Bordeaux, sœur Jeanne Gazin, qui vit toujours, mais qui a basculé actuellement dans un Alzheimer. Mais quand je l'avais interviewée, elle était tout à fait consciente. Alors, Tournemine, c'est un pensionnat de religieuses de Notre-Dame d'une centaine d'élèves, et la jeune Jeanne Gazin s'y était pris de sympathie pour Madame Palombo, une religieuse italienne particulièrement dynamique, qui donnait des cours de couture. Or, cette religieuse est affectée d'une perte d'équilibre. Elle est transportée dans une clinique d'Albi, où le professeur Bonpin diagnostique une tumeur au cerveau, la déclare inopérable et annonce qu'elle en a pour quelques jours. Les élèves de Tournemine, troublés par l'émotion, sont totalement désemparés. Aussi, la supérieure provinciale les réunit et leur propose une neuvaine à la chapelle. Une neuvaine à la chapelle pour la guérison de Madame Palombo. Et c'est l'occasion pour la fillette d'une quinzaine d'années de découvrir pour la première fois le cœur des religieuses au son de l'hymne alors bien connu « Oui, Jeanne, sur ta trace pour Dieu, nous combattons ». Les deux structures étaient partagées d'un côté séparés. Il y avait le collège et de l'autre le couvent. Quelques jours plus tard, le 1er mai, devait avoir lieu une grande fête pour des prises d'habits des professions, car Tournemine était à la fois un noviciat et un collège. Et la cérémonie avait attiré un grand concours d'amis, de parents, ce qui ne laissait d'inquiéter les responsables, parce que on pensait que le décès d'une religieuse ce jour-là, le 1er mai, lors de cette fête solennelle, allait jeter le trouble. Alors, pour assister la malade pendant l'office, est commise une sœur italienne, la sœur Assunta. Et les gémissements de l'agonisante ayant cessé, la sœur Assunta croit à un assoupissement. Elle s'absente quelques minutes pour suivre l'office religieux par un œil de bœuf. Nous sommes donc au premier étage. Et à son retour, sa stupéfaction est totale de retrouver Madame Palombo, assise sur son lit, qui lui déclare « Une main est passée sur mon front et une voix m'a dit « Lève-toi, tu es guéri ». Et la malade répète avec obstination qu'elle veut se lever, qu'elle veut descendre, qu'elle veut manger aussi. Elle n'a plus d'habits, on va lui en chercher un à côté. Elle n'avait plus d'habits parce qu'on pensait que c'était plus la peine puisqu'elle allait mourir d'ici quelques heures. Elle s'habille toute seule et elle descend l'escalier et fait une entrée spectaculaire devant la communauté assemblée. Alors, de façon très curieuse, cette descente d'escalier semble rééditer une autre guérison qui avait été considérée hâtivement comme miraculeuse en 1826, mais qui n'avait pas été totalement reconnue, à Toulouse. Et si la guérison de 1826 avait eu peu d'écho, en revanche, celle de 1941 fut l'objet d'une théâtralisation médiatique qui, à mes yeux, correspond assez au renouveau du sentiment religieux après le désastre national de 1940. Et les religieuses de Tournemine réagissent avec une remarquable présence d'esprit. Rapidement, les élèves, les collégiennes, sont associées à l'événement. La directrice tape dans les mains et crie « Mesdemoiselles, venez vite !» Elle leur ouvre la porte de la grande salle de la communauté religieuse que ces enfants ne connaissaient pas, et elles sont stupéfaites de retrouver leur chère malade. Elles l'entourent, elles la touchent pour voir qu'elle ne rêve pas. Puis Te Deum Magnificat. Le plus surpris est l'agnostique docteur Bonpain, qui, dès le lendemain à Albi, constate avec ses collègues la disparition de la tumeur. Et on aboutit, je passe sur des étapes, on aboutit le 15 mai à Rome, voici le sarcophage, le tombeau de Sainte-Jeanne. On aboutit à Rome à la canonisation par Pie XII. Dans son homélie, Pie XII souligne, je cite, « la grande œuvre, donner au monde des femmes qui sachent y tenir leur place, une place de militante pour le maintien dans la société de la foi à Dieu et à l'Église. » Toute sa vie n'a été que l'élaboration du plan providentiel. Alors, fin de mon analyse, on peut s'interroger pourquoi ce long chemin vers la reconnaissance, alors que la cause semblait de qualité, les religieuses parlaient de la bonté de la cause. Eh bien, nous l'avons vu par humilité, Jeanne de Lastenac avait brûlé ses papiers. En 1669, rue du Ha, le couvent avait en grande partie brûlé. Toutes les traces de l'époque de Jeanne, la documentation avait disparu. Ce qui a manqué également sous l'Ancien Régime, a manqué une forte personnalité, je parle de l'Ancien Régime, donc 17e, 18e siècle, a manqué une forte personnalité capable de porter le dossier, comme va le faire la mère du Terrail au 19e siècle. A manqué également l'absence du généralat jusque dans les années 1920. Jusque dans les années 1920, les maisons des religieuses de Notre-Dame ont été autonomes, sinon indépendantes. Et c'était cette absence de généralat qui existe, le généralat existe actuellement, il est à Rome, la structure est à Rome, eh bien, a gêné le processus. Enfin, n'oublions pas ce que j'appellerais la possible concurrence d'autres grandes fondatrices d'ordre, ses contemporaines, telles Jeanne de Chantal, Louise de Marillac, qui bénéficient d'une plus grande visibilité. A joué aussi le fait que, longtemps dans le domaine, jusqu'au début du XXe siècle, la fille aînée de l'Église, la France, a été quelque peu défavorisée par rapport à l'Espagne et surtout à l'Italie, comme le montre une analyse statistique qui a été menée dans le dictionnaire spiritualité, par Bernard Peyrousse et par Raymond Daricot. Donc, nous le savons, tous les chemins mènent à Rome, dit le proverbe, mais hors de la péninsule, ils sont souvent longs et caillouteux. Enfin, actuellement, pendant un certain temps, Jeanne a pâti d'un déficit de notoriété. Sainte reconnue, désormais Jeanne de Lestonnac l'est incontestablement. Cependant, en ce début de XXIe siècle, on peut considérer qu'à ce jour, elle n'occupe pas la place qu'elle mériterait, même à Bordeaux, et peut-être en fonction de la discrétion de son institut plus soucieux d'efficacité que de notoriété. Depuis une douzaine d'années, je fréquente les religieuses de la Maison Mère à Bordeaux et j'ai été frappé par leur discrétion et par l'ampleur du travail qu'elles font dans le monde entier. L'Institut est présent dans une trentaine de pays, particulièrement dans l'espace hispanophone, Espagne, Colombie, Mexique, tout le cône sud de l'Amérique du Sud, soit quelques 1500 sœurs. Mais ne soyons pas pessimistes, une évolution se décide. Qui a commencé dans les années 80 avec une thèse absolument remarquable sur les principes éducatifs de Jeanne de Lestonnac par Françoise Souris-Lavergne. Il y a eu en 2006 les 400 ans de la compagnie qui ont été solennellement fêtés à Bordeaux. La compagnie s'est lancée dans une entreprise de longue haleine, la publication à Rome de l'inventaire de toutes ses archives historiques, des meilleures biographies de Jeanne. Et je viens d'en avoir un exemple il y a quelques semaines avec la biographie faite par Sainte Marie, qui a été réalisée par l'archiviste bordelaise, sœur Colette de Bois, une entreprise tout à fait remarquable. Donc, de tous côtés, Jeanne de Lestonnac est à l'honneur avec des colloques, comme un colloque bordelais qui avait voulu établir la parenté spirituelle entre l'oncle et la nièce. Il n'est pas jusqu'à la bande dessinée qui ne s'empare du personnage avec une représentation un petit peu naïve, un air doucereux qui ne correspond guère à la Jeanne de Lestonnac que je crois connaître un peu. Mais enfin, c'est intéressant pour les enfants. Et le diocèse de Bordeaux n'oublie pas sa sainte. Il se lance à l'occasion dans des évocations paroissiales. La sainte de Bordeaux sort symboliquement de la pénombre. Elle avait une statue qui remontait aux années 1900, qui était dans une chapelle de la cathédrale de Saint-André qu'on ne voyait pas. Et je me rappelle que Sœur Gazin m'avait dit que ça lui faisait mal au cœur de voir cette statue reléguée, triste au possible. Et cette statue, la voilà, qui n'est pas une réussite parce que artistique, car Sainte Jeanne de Lestonnac était grande et n'avait pas cet air tassé qu'a donné le sculpteur. Bon, peu importe, mais c'est un symbole. Et cette statue a été récemment installée par le cardinal archevêque de Bordeaux dans un endroit bien visible à la croisée du transept. La voilà, à la croisée du transept. Elle ne peut échapper ni au regard des dévots, ni au regard des touristes. Donc, en conclusion, je dirais que la nouvelle visibilité de la Compagnie Notre-Dame contribue désormais au rayonnement de sa fondatrice en ce début de XXIe siècle, une fondatrice qui est profondément une femme de son époque, une femme du XVIIe siècle tridentin, mais qui est aussi une sainte et une éducatrice pour le temps présent. Je vous remercie de votre attention.
Le long chemin vers la béatification, le cas de Jeanne de Lestonnac. Vous venez de suivre l'intervention de Philippe Loupès, professeur émérite de l'Université Bordeaux-Montaigne, membre de l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. colloque international organisé à l'occasion de la béatification de l'abbé Louis-Édouard Sessac par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et par la ville d'Anglette, 15, 16 et 17 octobre 2015 à Notre-Dame du Refuge à Anglette. Société, religion et charité au 19e siècle.